Vous écoutez Stade Bleu sur France Bleu. Le Stade Bleu, Thomas Pontillon.
Bonsoir à tous, on est ensemble jusqu'à 19h30 pour parler sport et l'actualité est très chargée ce soir. D'abord en football, le PSG retrouve sa place de leader après sa victoire à Nice cet après-midi, 3-1. Lyon, son dauphin, joue demain le bouillant derby face à Saint-Etienne. Et puis ce soir, 5 matchs au programme avec plusieurs duels de bas de tableau qui compteront sûrement dans la course au maintien, on va en reparler. Et puis en rugby, un club français est déjà en finale de la Coupe d'Europe. Clermont s'est qualifié cet après-midi face aux Saracens. Demain, Toulon on tentera de les rejoindre. On retrouvera Nicolas Blanza pour nous parler de la rencontre. Le tennis, c'est le tournoi de Monte Carlo. Ce sera une finale Djokovic-Berdic demain. Déception pour Gaël Monfils, balayé cet après-midi en demi-finale par Thomas Berdic.
C'est un joueur qui me pose beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui, que j'arrive pas à manœuvrer du tout, qui me laisse pas beaucoup de solutions. Et chaque fois, il m'éteint. Donc, c'est pas facile.
Et les 24 heures du Mans Moto démarrent aujourd'hui. Les pilotes sont sur la piste depuis 15h cet après-midi. On retrouvera Romain Lafitte de France Bleu Maine pour faire le point et parler de la gestion de la nuit pour les équipes. Autre course en pleine nuit, le marathon de Bordeaux ce soir. Il se court du centre-ville jusque dans les vignobles. On ira sur la ligne de départ tout à l'heure. Stade Bleu, ça commence maintenant.
Stade Bleu, le football.
Et on va parler de la course au maintien, elle concerne beaucoup d'équipes ce soir, mais d'abord la course au titre, et Paris n'est pas tombé dans le piège niçois après sa défaite cette semaine en Ligue des Champions. Les Parisiens viennent de s'imposer 3-1 à Nice cet après-midi, Stéphane Burgat.
Paris a joué à se faire peur, libéré, plus fougueux, et les Aiglons rentrent mieux dans le match. Une première grosse occasion dès la 7e minute et un contre de Carlos Eduardo qui lance Alassane Pléa, repris in extremis dans la surface de réparation par David Luiz. Paris, en dehors d'une situation de contre similaire, est anesthésié, attentiste, jusqu'à l'ouverture du score contre le cours du jeu par Javier Pastore qui est parti dans le dos de la défense niçoise et qui gagne son duel contre Pouplein. Nice récompensé dans les arrêts de jeu par Mathieu Bodmer sur un tir contré de Benrahma. Un partout à la mi-temps et à la reprise, eh bien, les Parisiens reviennent dans de meilleures dispositions. Première alerte et une frappe à bout portant de David Luiz au 6 mètres, détournée avec beaucoup de talent par le gardien niçois et Simon Pouplein qui s'incline à l'heure de jeu cette fois sur une frappe de Javier Pastore pour son doublé ce soir avant qu'Edinson Cavani se fasse justice lui-même sur un pénalty à la 68e minute. Simon Pouplein qui est pris à contre-pied, 3-1, score final. Paris reprend provisoirement la tête de la Ligue 1, un point devant Lyon qui affronte demain Saint-Etienne.
Stéphane Burgat à Nice pour France Bleu. Ce soir, 5 matchs au programme. Tous ou presque sont très importants pour le maintien. Seul Monaco, elle va pouvoir regarder en haut et peut conforter ce soir sa 3e place face à Rennes. Dans les autres rencontres, duel de relégable entre les deux derniers, Metz et Lens, Guingamp accueille Evian, Bastia reçoit Reims et Lorient s'est opposé à Toulouse. Bonsoir Christophe Delacroix.
Bonsoir.
Alors Lorient, Toulouse, deux équipes à égalité de points, c'est un vrai match de la peur ce soir.
Ah oui, vous l'avez dit, le spectacle n'est pas assuré. En revanche, les frayeurs et les émotions sont garanties. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier, juste une différence de but entre ces deux formations. À ma droite, Lorient, 16e, 35 points, moins 10 buts de différence de but. Des Merlus qui sont sur une pente descendante. Les joueurs de Sylvain Ripoll n'ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs. Ils restent sur un match nul 0-0 à Amiens, où ils se sont un petit peu rassurés après une claque à domicile 3-0 face aux voisins rennais. Cette réception, elle est déterminante au cœur d'un calendrier musclé avec un déplacement notamment à Marseille la semaine prochaine, les réceptions de Bordeaux et de Monaco. Lorient maîtrisera donc son destin à domicile ce soir face à Toulouse et avec la réception de Metz, et le mental va faire la différence selon l'un de ses meilleurs attaquants, Jordan Ayew. Alors pour bien se rassurer, les Lorientais se disent qu'ils n'ont jamais été relégués en comptant 35 points après 32 journées. À ma droite, l'équipe de Toulouse victorieuse à Montpellier qui ne veut pas mourir, qui a recueilli au classement, qui a appliqué une situation comptable, eh bien, qui était un moment improbable, mais qui aujourd'hui est bien en meilleure santé depuis l'arrivée d'Harry Bagé, ce qui s'est traduit par 6 points en 3 matchs pour le nouvel entraîneur. En 2015, Toulouse a pris 14 points, c'est deux fois plus notamment que Reims. C'est un milieu en terrain au losange qui satisfait, une défense qui se rassure au fil des matchs et une équipe qui n'a pas envie de mourir. Donc ce soir, eh bien, le match de la peur est garanti et ça sera sous la pluie car il y a un léger crachin actuellement sur le stade du Moustoir.
Merci Christophe Delacroix pour France Bleu. On part maintenant en Corse pour Bastien Reims. Bonsoir Patrick Rossi.
Bonsoir Thomas.
Les Corses, 14e quand même, n'ont toujours pas acquis leur maintien et ils affrontent une équipe de Reims encore plus en danger que les Bastiais. Mais on peut dire aussi que le match a déjà commencé. Le ton est monté là ces derniers jours entre les deux clubs.
Ah oui, le ton est monté, notamment aujourd'hui avec une réaction, hein, que chacun a pu lire dans le quotidien, l'équipe, réaction du du président du Stade de Reims qui s'insurge un petit peu contre les propos de Julien Palmieri et qui évoque cette rencontre comme une guerre. Alors, est-ce que c'est la guerre des mots d'une certaine façon, Thomas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que les 22 acteurs auront ce soir un esprit de guerrier parce que vous l'avez rappelé, c'est un match ô combien important. Tant pour le Sporting que pour le Stade de Reims, deux équipes qui ont besoin impérieux de points, deux équipes qui sur les cinq dernières journées ont réalisé quasiment le même parcours. Il y a une victoire et quatre défaites consécutives pour Reims, il y a un match nul et quatre défaites également pour le Sporting Club de Bastia. Autant dire que le Sporting a baissé de pied depuis quelques semaines. Bastia qui a été contraint de jouer à l'extérieur en exil un petit peu suite à la suspension du stade de Fouriagne, une enceinte de Fouriagne que les Bastiais retrouvent donc ce soir, une enceinte qui sera à guichet fermé, Thomas, tout simplement, et pour cause, les dirigeants bastiais ont décidé pour cette rencontre très importante, eh bien de faire un geste très important à destination de ses supporters qui pour beaucoup se sont sacrifiés la semaine dernière pour se rendre à Paris et donner de la voix à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Et bien ce soir les places, Thomas, tenez-vous bien, elles sont à 1 euro et forcément on va jouer à guichet fermé. 17 000 supporters derrière le Sporting pour ici à Bastia, en tout cas on y croit, hein, on souhaite une victoire de cette équipe bastienne, mais je vous le promets, ça va être un très grand match et vous verrez, ce ne sera pas la guerre sur le terrain, ce sera un vrai match d'hommes dans cette course au maintien.
Et il devrait y avoir beaucoup d'ambiance. Alors merci Patrick Rossi de France Bleu, Frequenza Mora à Bastia. Et c'est vrai aussi que jusqu'à la 13e place détenue par Caen, il n'y a que 3 points d'écart avec le premier relégable. Seul Guingamp ce soir, 12e, pourrait peut-être assurer son maintien en cas de victoire. C'est en tout cas ce que vise Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur breton qui affronte Evian ce soir.
C'est un match important parce qu'il faut qu'on retrouve du dynamisme et qu'on reparte sur un cycle positif. On a perdu les deux derniers matchs chez nous, même les 3 derniers, entre Montpellier, Lille et Lyon. Après, ce sont des équipes bien plus fortes que la nôtre. Là, on se retrouve avec un concurrent direct. Il faut qu'on retrouve plus d'allant, plus de dynamisme sur un match à domicile, qu'on reparte sur quelque chose de positif chez nous. La barre des 42 points est toujours une barre symbolique. Je souhaite qu'on y aille. Voilà, c'est une barre symbolique. Est-ce qu'elle sera suffisante? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est notre objectif sur le match face à Evian.
Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur de Guingamp, avant le match Guingamp-Evian ce soir. Allez, je vous rappelle le programme ce soir des 5 matchs. Metz-Lens, Lorient-Toulouse, Monaco-Rennes, Bastia-Reims et Guingamp face à Evian. Demain, Lille recevra Bordeaux. Montpellier accueillera Caen. Et en clôture, ce sera le derby Lyon face à Saint-Etienne. Et puis de résultats, cet après-midi, Paris s'est imposé à Nice 3-1. Et hier soir, l'OM a perdu 1-0 à Nantes, une équipe marseillaise qui n'y arrive plus. 3e défaite consécutive à cause notamment d'une vilaine erreur de défense, Tony Cellier.
Oui, comme si ça ne suffisait pas, l'OM donne aussi maintenant le bâton pour se faire battre. Marseille s'est sabordé hier soir. 20 minutes de jeu, une passe complètement ratée de Rod Fanny pour son gardien. Steve Mandanda qui glisse et Gakpé intercepte. 1-0 pour Nantes, le milieu de terrain Romain Alessandrini.
Oui, c'est vrai que tout s'accumule en ce moment. Avant le match, on s'était dit de ne pas faire d'erreur et ce soir c'est arrivé, donc c'est dommage pour nous.
Ajoutez à ça l'engagement supérieur des Nantais, l'OM est tombé dans une toile d'araignée presque imprenable hier soir. Un seul tir cadré pour Marseille dans les toutes dernières minutes est signé Ocampos. À part ça, presque rien, largement insuffisant. L'entraîneur de Nantes, Michel Darzakarian.
Comme j'ai dit avant le match, il faut manger la pelouse. Et on a mangé Marseille ce soir. Dans l'esprit de conquête, on était dedans du début à la fin.
Des rêves de titre déjà envolés, un podium qui pourrait s'éloigner aussi. L'OM est à l'arrêt en ce moment. Il ne faudrait pas maintenant que ce terminus de la Beaujoire soit synonyme de fin de saison en queue de poisson pour l'OM.
Tony Cellier pour France Bleu. Allez, avant de parler de la Ligue 2, ce nouveau rebondissement dans l'affaire des matchs présumés truqués, le Stade Malherbe de Caen est peut-être définitivement mis hors de cause aujourd'hui, on peut le penser en tout cas, car ce matin le président du club normand Jean-François Fortin a reçu une lettre du juge chargé de l'affaire qui l'autorise désormais à reprendre son poste de président, Jean-Pierre Blimaud.
Le président Canet a certainement vécu la saison la plus incroyable et la plus difficile depuis qu'il a repris la direction du club en 2002. Placé en garde à vue le 18 novembre avec l'un de ses plus proches collaborateurs, enquêteurs. Jean-François Fortin avait passé 2 jours et 2 nuits devant les enquêteurs et devant le juge à Nanterre. L'Olympique Nîmois, par le biais de ses dirigeants, était dans le collimateur de la justice à l'époque pour avoir tenté d'arranger des matchs de fin de saison de Ligue 2, dont Caen Nîmes le 13 mai, décisif pour le maintien des Nîmois et la montée de Caen en Ligue 1. Les dirigeants canets avaient très vite clamé leur innocence. Le président avait suspendu ses activités dans le football sous ordre du juge. Après 4 mois de patience, le 18 mars dernier, Jean-François Fortin a d'abord été blanchi par la commission de discipline de la Ligue, qui a également mis hors de cause le club dans son ensemble. Restait à obtenir l'aval de la justice pour que le président canet reprenne son poste, ce qui est fait.
Et un mot de Ligue 2 sur les terrains cette fois, cet après-midi. Dijon et Angers ont fait match nul, 1 but partout. Ça reste donc très ouvert pour la 3e place. Les Angevins, donc 3 points d'avance sur leur adversaire du jour. Ils sont 3e et 4 points sur Sochaux et Brest, qui jouera lundi contre le Havre. Pour les 2 premières places, en revanche, on y voit plus clair. 3 est presque en Ligue 1 après sa victoire hier soir, tout comme le Gazélec d'Ajaccio qui s'en rapproche franchement. 6 points d'avance sur le 4e. Et en bas de tableau, on y voit aussi très clair. Châteauroux et Arles-Avignon ont quasi les 2 pieds en national avec 10 points de retard sur le premier non relégable. Et puis un mot de la Coupe de France, c'est ce soir la finale pour les dames. Montpellier face à Lyon, c'est à 21h au stade de l'Épopée à Calais. Il reste encore des places si vous êtes dans le Nord.
Stade Bleu, le rugby.
Le rugby, un club français en finale de la Coupe d'Europe. Clermont est venu à bout cet après-midi des Anglais de Saracens. Bonsoir Nicolas Blanza.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Victoire 13 à 9, vous avez suivi la rencontre, c'était très compliqué quand même.
Oui, match cadenassé, match étriqué, match fermé, verrouillé, employez tous les qualificatifs que vous voulez. C'est vraiment une opposition défensive qu'on a surtout vu dans cette période. Une partie d'échec en quelque sorte. Chaque équipe a globalement refusé de se livrer dans sa moitié de terrain et a systématiquement cherché à se dégager, à envoyer le ballon dans la moitié de terrain adverse, et c'est vrai que on n'a pas eu de grandes envolées au large tout au long de la partie. Ça s'est résumé à un duel de buteurs, souvent en première période particulièrement. On n'a pas vu d'action tranchante de part et d'autre, et à ce jeu-là, ce sont les Saracens qui ont pris l'avantage, puisque grâce au pied de leur ouvreur Charlie Hudson, ils menaient 6-3 grâce à un drop marqué à la 15e minute et une pénalité inscrite à la 37e. Côté Clermontois, il y a eu un drop raté par Brock James dès l'entame de jeu et une pénalité à la 26e, 6-3 donc pour les Saracens à la pause.
Un mot sur l'ambiance, on l'entend encore derrière vous, il y avait beaucoup de monde cet après-midi.
Ouais, 41 500 supporters exactement cet après-midi à Geoffroy Guichard, record d'affluence battu dans ce stade Geoffroy Guichard, nouvelle configuration, mais c'est vrai que les supporters auvergnats n'en menaient pas large au cœur de la 2e période lorsque les Saracens sont revenus à 10-9 à la 66e minute grâce à une pénalité d'Owen Farrell. Juste avant ça, les Clermontois ont parfaitement exploité la seule véritable attaque au large avec un petit coup de pied astucieux de Brock James joué par-dessus, ballon récupéré par Wesley Fofana qui allait aplatir dans l'embu londonien et s'est transformé par Brock James qui a également ajouté une pénalité à la 73e minute. Il a d'ailleurs été élu homme du match, l'ouvreur clermontois, et grâce à lui, les Auvergnats ont été récompensés de leur engagement en défense, leur engagement dans les rucks. Ils ont beaucoup gêné les londoniens, c'est un petit peu la marque de fabrique justement des Saracens, de presser systématiquement, un pressing permanent tout au long de la rencontre. Et les Clermontois ont réussi à s'en défaire et sur leur seule véritable opportunité, ils ont réussi à aller à l'essai.
Merci Nicolas Blanza pour France Bleu après la victoire donc cet après-midi de Clermont contre les Anglais de Saracens, 13-9. Et puis demain, une autre équipe française est engagée en demi-finale de la Coupe d'Europe. Toulon reçoit les Irlandais du Leinster, 2 équipes habituées à se rencontrer, 2 équipes habituées également à jouer au très haut niveau. Et Toulon, double tenant du titre, aimerait poursuivre l'aventure européenne et pourquoi pas viser un 3e titre d'affilée. Mais Bernard Laporte, l'entraîneur du RCT, reste prudent.
Je crois que ce serait un exploit, Ce serait quelque chose d'unique. Je ne sais pas si c'est des exploits, mais ce serait quelque chose d'unique, puisque effectivement personne pour le moment ne l'a fait. Mais on a sur notre route un candidat sérieux, qui est le Leinster, qui lui aussi connaît ce genre d'événement, puisqu'ils sont un peu comme nous, je crois qu'ils ont gagné 3 fois. Enfin, ils sont même mieux que nous. Mais qu'ils ont l'habitude de ces matchs, quoi, avec une pléiade d'internationaux en activité, avec l'équipe d'Irlande qui vient de gagner le tournoi. Donc voilà, donc ça s'annonce un match de niveau international, un très bon match. Tout le monde veut jouer ce genre de match, mais ça commençait déjà avec le quart de finale. Dans ces semaines-là, je dirais, l'importance du match fait que quand tu es manager, c'est quand même plus facile, quoi, parce qu'il y a beaucoup de concentration, il y a beaucoup d'application, il y a déjà beaucoup d'envie de jouer. Oui, il y a de la concentration, il y en aura jusqu'à la fin de la semaine, c'est certain.
Toulon Leinster, c'est donc demain à 16h15 au Stade Vélodrome à Marseille, qui ne sera pas plein demain, mais on en reparlera évidemment dans Stade Bleu.
Le Stade Bleu, Thomas Pontillon.
Le tennis, c'est direction le tournoi de Monte-Carlo. Novak Djokovic face à Tomas Berdych. C'est l'affiche de la finale demain. Ça veut dire que le seul Français encore en lice aujourd'hui a perdu. Gaël Monfils s'est incliné face à Berdych en moins d'1h10. Défaite 6-1, 6-4. Fabrice Abgral.
Gaël Monfils considère Tomas Berdych comme sa bête noire et ça s'est une nouvelle fois vérifié sur le central. Le Parisien a subi aujourd'hui sa 6e défaite face au Tchèque en cette confrontation. Gaël Monfils a perdu sans gloire et sans jamais donner l'impression de pouvoir l'emporter, battu tout simplement par plus fort que lui. Le Parisien n'a jamais pu s'exprimer, incapable de s'organiser et d'installer son tennis face à un Tomas Berdych aux frappes lourdes, au jeu très propre, pas forcément spectaculaire, mais très efficace et suffisamment solide pour empêcher Gaël Monfils de se libérer et de lâcher ses coups. Gaël Monfils était impuissant et trop rapidement dépité et résigné, laissant du coup le Tchèque prendre confiance, imposer son rythme et son tennis tout en puissance pour finalement s'imposer en 1h08 au terme d'un match à sens unique et qui pour Gaël Monfils frustré laissera forcément un goût d'inachevé. Le Parisien disputait aujourd'hui sa première demi-finale à Monte-Carlo et ça ne restera pas un bon souvenir.
Et ça ne sera sûrement pas un bon souvenir. Écoutez justement la réaction de Gaël Monfils juste après sa défaite cet après-midi face à Tomas Berdych.
C'est un joueur qui me pose beaucoup de problèmes, quelqu'un qui, que j'arrive pas à manœuvrer du tout, qui me laisse pas beaucoup de solutions et j'ai vachement de mal à en trouver, donc c'est sûr que voilà, il va falloir que je travaille sur ça énormément pour pouvoir le gêner un peu plus la prochaine fois.
Impuissant, donc frustré à la sortie du cours forcément.
Oui, parce que j'aime pas perdre, mais après j'ai donné ce que je pouvais et voilà, quand un joueur est plus fort que vous, il est plus fort que vous, il faut le reconnaître, et j'étais beaucoup moins à l'aise, donc c'est frustrant et c'est rageant de temps en temps parce que je me sens pas forcément pas trop mal quoi, je me sens plutôt bien et de pas du tout arriver à s'exprimer quoi, à chaque fois il m'éteint, donc ouais, c'est pas facile.
Gaël Monfils, après sa défaite en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo face à Tomas Berdych cet après-midi. Tomas Berdych qui sera donc opposé à Novak Djokovic demain en finale. Le Serbe numéro 1 mondial est venu à bout assez facilement de Rafael Nadal cet après-midi en 2-7, 6-3, 6-3. Et puis en tennis, toujours ce week-end, se tient les demi-finales de la Fed Cup. C'est l'équivalent de la Coupe Davis pour les femmes. Et ça démarre plutôt mal pour la France, menée 2-0 par la République tchèque. Les Françaises ont perdu aujourd'hui leurs deux premiers simples. D'abord Caroline Garcia, battue par Lucie Safarova en 3-7, 4-6, 7-6, 6-1. Une défaite assez rageante car au deuxième set, la Française n'a pas réussi à concrétiser 5 balles de match alors qu'elle menait 5-4. Et puis Petra Kvitova a battu la Française Kristina Blindovic, alignée par Amélie Mauresmo plutôt qu'Alizé Cornet. Elle a perdu en 2-7, 6-3, 6-4. Il ne manque donc plus qu'un point au Tchèque pour se qualifier pour sa quatrième finale en 5 ans. Ce sera peut-être demain lors du double. C'est une ambiance toujours très particulière au Mans, même si ce n'est pas encore les 24 heures auto. Ce week-end, ce sont les motos qui investissent la célèbre circuit. Et on retrouve là-bas sur place Romain Lafitte de France Bleu Maine. Bonsoir Romain.
Bonsoir Thomas.
La course est partie depuis un peu plus de 4 heures maintenant. C'est à 15h le départ. Où en est-on ?
Eh bien écoutez, à l'instant même, la voiture de sécurité vient d'entrer en piste après une chute sans gravité, je vous rassure. Pour l'instant, ce sont les locaux qui sont en tête, l'écurie du Mans sur la Suzuki numéro 30, les vainqueurs sortant de ces 24 heures. La Honda numéro 11 est en deuxième position avec comme pilote numéro 1 Julien Dacosta, déjà 3 fois vainqueur ici au Mans. 3e et 4e du classement provisoire, les deux Yamaha numéro 7 et 94. La victoire finale devrait se jouer entre ces 4 motos. L'information principale de ces premières heures de course, c'est la chute spectaculaire de Fabien Fauré sur la Kawasaki numéro 11, cette moto qui s'était élancée en pole position tout à l'heure.
Alors évidemment, le plus dur reste à venir pour les pilotes avec la gestion de la nuit.
Et oui, 24 heures de course, c'est long évidemment et chaque minute compte. Écoutez, Vincent Philippe, le pilote expérimenté de la Suzuki numéro 30, en tête donc actuellement, je l'ai rencontré tout à l'heure sur la table de massage, il nous explique sa gestion des temps de repos.
Moi, je m'assoupis ici en fin de massage. J'en profite jusqu'à temps que mon coéquipier arrive et prenne ma place. Donc voilà, c'est mon moment de détente durant la course à chaque fois. Donc parfois, j'arrive à dormir une petite sieste de 20-30 minutes. Puis après, j'essaie de rester éveillé parce que c'est le plus important. Si on commence à trop dormir, après, le corps a du mal à réagir et on devient tout mou sur la moto. Donc faut rester vigilant et concentré tout le temps.
Voilà, longue nuit pour les pilotes du 24 heures du Mans Moto. Et puis bon courage aussi à vous, Romain Lafitte de France Bleu Men, qui suivait donc cette course tout au long du week-end. De la course moto à la course auto, on passe maintenant donc avec l'automobile et ça se transmet certainement par les gènes. Giuliano Alesi, le fils de Jean Alesi, fait ce week-end ses débuts en monoplace. À tout juste 15 ans, le jeune homme est aligné sur le circuit de Formule 4 à Lédenon dans le Gard, tout près d'Avignon, la ville natale de son père. Et pour ses premiers essais qualificatifs, le jeune garçon a signé la pole position avec évidemment son père dans les parages, Jean Saint-Marc.
Son père, Jean, est bien sûr là pour suivre les essais. Un papa très stressé juste avant les qualifications.
En tant que père, d'être à ses côtés et de suivre, c'est moi qui prends aussi beaucoup de pression. Je suis très tendu, évidemment. On aimerait que ça se passe bien, on aimerait qu'il soit heureux de ses résultats, donc forcément, je suis un peu tendu quoi, pour le track.
Même sentiment pour la grand-mère, Marcel, allez-y. Elle, ce qui l'inquiète, c'est l'orage qui menace.
Espérons que le temps ne se mettra pas contre lui et que ça se passera bien.
Vous êtes un peu inquiète ?
Ben oui, ça serait inconscient de ne pas être inquiet.
Pendant ce temps, le jeune homme fait ses premiers tours de piste et réalise de très bons essais. Il signe les deux meilleurs temps des qualifications et décroche la pole position. Alors dans les stands après la course, son père est au bord des larmes.
C'était la folie quoi, parce que la séance comme ça, je vois évoluer les temps, je vois que tout le monde passe devant, on repasse derrière. Enfin, c'était une belle bagarre toute la qualif. Et puis bon, c'est son premier week-end, donc quand on part comme ça du bon pied, on est content.
Giuliano Alesi, lui, ne s'emballe pas, mais ne cache pas non plus ses ambitions.
L'objectif final, bon, bien sûr, ça serait la Formule 1.
Tu penses à ça
La Formule 1, j'y pense souvent quand je regarde les Grands Prix, mais ce que j'essaie de penser le plus, c'est la course qui m'arrive la semaine dernière, c'était Lédenon, je pensais qu'à Lédenon.
Giuliano Alesi qui reste concentré après ses essais réussis pour gagner les courses du week-end, car son objectif c'est d'être sur le podium de ce championnat de F4 à la fin de l'année.
Et on suivra ça évidemment sur France Bleu. Autre course à pied cette fois avec le marathon de Bordeaux. On est en pleine saison de ces courses de 42 km, Paris la semaine dernière avec 54 000 participants. Et en Gironde ce soir ils seront moins nombreux, un peu moins de 20 000, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais la course se distingue. Bonsoir Clément Carpentier.
Bonsoir.
Vous êtes sur la ligne de départ et pourtant il est bientôt 19h30. C'est parce que c'est le premier marathon en France qui va se courir de nuit.
Eh oui, c'est une grande première hein, ici à Bordeaux. Pourtant cela existe hein, déjà depuis quelques années à l'étranger, hein, par exemple à Bilbao en Espagne, à Singapour ou encore au Luxembourg. Mais en France, personne n'avait tenté ce pari. Et en tout cas, ce que l'on peut dire à maintenant une petite demi-heure hein, du début du premier marathon de Bordeaux, c'est que le pari est plus que réussi. Les 7000 places réservées justement pour ce marathon sont parties en quelques jours, il y a quelques mois. En tout cas, ce premier marathon nocturne va changer quelques habitudes hein, pour les coureurs. Il faudra faire encore plus attention pour savoir où on court et ne pas risquer une entorse de la cheville, par exemple. Des participants qui vont traverser donc toute la ville de Bordeaux en long, en large et en travers. Puis, ils iront aussi jusque à la sortie de la ville dans les vignes. Imaginez-vous courir un marathon dans les vignes et en plus de nuit. Le cadre est magnifique, même si malheureusement la pluie s'est invitée à la fête. Et puis, dès cette première édition, le marathon de Bordeaux entre d'ailleurs dans le top 5 des marathons français avec 7000 participants, je vous l'ai dit. Derrière Paris, bien sûr. Derrière aussi le marathon du Médoc qui se court à quelques kilomètres aussi de Bordeaux et celui de Nantes. En tout cas, malgré la pluie et les orages qui sont attendus ce soir, la fête s'annonce très belle ici. D'ailleurs, les coureurs commencent tous à approcher de la ligne de départ hein, sur les quais à Bordeaux, au bord de la Garonne.
Et donc, le départ, ce sera dans un petit peu moins d'une demi-heure maintenant. Merci Clément Carpentier en direct de Bordeaux avant donc ce premier marathon nocturne en France à travers les vignobles. Voilà, il est bientôt 19h30, Stade Bleu. C'est déjà terminé. Je vous rappelle la victoire de Clermont cet après-midi face à Saracens. C'est qualifié en finale de la Coupe d'Europe et Paris qui s'est imposé 3-1 sur le terrain de Nice. 19h30 sur France Bleu.
Stade Bleu, le week-end à 19h sur France Bleu.